Vous écoutez France Culture, tout de suite, le journal.
Le journal, Jeanne Serrin.
Bonsoir à tous, il est 18h. L'Ukraine célèbre son indépendance aux côtés de son allié canadien Volodymyr Zelensky qui demande à nouveau des garanties de sécurité et l'implication de ses alliés occidentaux en cas de cessez-le-feu. Au même moment, des rassemblements organisés partout en Europe pour soutenir le peuple ukrainien. Nous serons dans la manifestation parisienne dès le début de ce journal. Aux États-Unis, la ville de Chicago dans le viseur du Pentagone. Après Los Angeles et Washington, l'administration Trump pourrait déployer la garde nationale dans la troisième ville du pays. Enfin, dans l'actualité en France, un concert sous haute surveillance ce soir au festival Rock en Seine. Le groupe nord-irlandais pro-palestinien NICAP maintenu dans la programmation malgré les appels au boycott. En pleine guerre avec la Russie, l'Ukraine a fêté aujourd'hui son jour de l'indépendance obtenu il y a 34 ans. Une journée célébrée en présence du Premier ministre canadien Mark Carney et de l'émissaire américain Keith Kellogg. Alors que les efforts diplomatiques pour régler la guerre s'enlisent, Volodymyr Zelensky a redit son intention de parvenir à une paix juste. La présence de troupes occidentales en cas de cessez-le-feu jugé importante par le président ukrainien. Un message appuyé par son homologue canadien. Kiev, la correspondance de Bastien Bory.
Sur la place Sainte-Sophie, le décor ukrainien est solennel et le message canadien politique. Mark Carney se dit ouvert à une paix durable conditionnée par une première étape, le cessez-le-feu. Une façon pour Ottawa d'envisager l'issue de ce conflit à la manière européenne, au contraire d'un Donald Trump partisan d'un accord immédiat et définitif entre Kiev et Moscou. Le Premier ministre canadien reprend un vocabulaire entendu cette semaine dans la voix de l'Europe en évoquant des garanties de sécurité robustes. Interrogé en conférence de presse, il ouvre ainsi la porte à une participation de troupes canadiennes sur le sol ukrainien au sein de la coalition des volontaires pour dissuader la Russie. Sur le plan financier, le Canada annonce une aide militaire imminente de 600 millions d'euros en faveur de l'Ukraine, soit près d'1 milliard de dollars canadiens, fraction d'un paquet plus large, plusieurs fois promis mais jamais acté. Malgré ses divergences avec le président américain, Mark Carney salue le leadership de la Maison-Blanche, mais s'aligne résolument avec Bruxelles. « Ce n'est pas à la Russie de choisir », dit-il en conclusion de son discours avec une idée en filigrane, « financer et armer, sans lâcher Kiev sur l'essentiel, la souveraineté ».
Soutenir la souveraineté de l'Ukraine, c'est aussi le message d'Emmanuel Macron qui a salué ce dimanche la bravoure du peuple ukrainien. La France se tiendra toujours à vos côtés, aujourd'hui comme demain, a déclaré le président français sur son compte X. Un soutien au peuple ukrainien qui se fait aussi entendre dans la rue. Alors que plusieurs manifestations étaient organisées aujourd'hui partout en Europe, plus d'un millier de personnes se sont réunies cet après-midi à Paris pour brandir des messages de paix. Thibaut Delmar, vous avez suivi le rassemblement parisien.
Un drapeau ukrainien de plusieurs centaines de mètres traverse le cortège.
Slava Ukraini !
Parmi les manifestants, Angelina, 20 ans, jupe bleue, débardeur jaune et un drapeau ukrainien peint sur la joue. Oui, c'est un jour de fête, mais elle sait que cette indépendance n'est jamais vraiment acquise pour l'Ukraine.
L'Ukraine, comme État très très vieille, elle existait depuis beaucoup de centaines d'années. Alors il y a 35 ans, on a obtenu notre indépendance. Et alors aujourd'hui, on continue de battre pour notre indépendance.
Surtout, elle redoute que le discours de Vladimir Poutine infuse en Europe.
C'est très important parce que avec les paroles de Poutine qui essaie de vraiment mêler qui est l'agresseur et qui est la victime, de montrer l'Ukraine comme l'agresseur. Alors je voudrais montrer aux Parisiens que la guerre continue, qu'on est toujours ici, qu'on va continuer de se battre.
Marina est ukrainienne, installée en région parisienne depuis une dizaine d'années. Elle s'est investie dans une association de soutien. Elle est venue aujourd'hui notamment parce qu'elle est inquiète de voir que la paix pourrait passer par l'annexion de certains territoires.
Ça nous fait très mal quand il y a discours politiques qui mettent tout ça en cause, l'indépendance de l'Ukraine, la sécession des territoires. Mais nous pensons qu'à notre niveau, nous continuons notre combat pour la liberté, pas seulement de l'Ukraine, pour la liberté ici aussi en Europe.
Malgré les musiques et la danse qui étaient aussi au programme, l'une des participantes confiait qu'elle espère pouvoir continuer à fêter cette indépendance pendant encore longtemps.
Thibaut Delmar. On apprend par ailleurs qu'un échange de prisonniers a eu lieu aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Cela concerne 146 personnes dans chaque camp. Pour autant, sur le terrain, les combats se poursuivent. Cette nuit, Kiev a mené une série d'attaques de drones sur la Russie, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier. L'armée ukrainienne qui affirme avoir repris 3 villages dans la région de Donetsk. Pendant ce temps, la Russie accuse les pays occidentaux de chercher à empêcher les négociations de paix avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répété une nouvelle fois ses accusations ce dimanche. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Moscou reste très critique face à Kiev et ses alliés occidentaux. Selon Sergueï Lavrov, ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations. Le chef de la diplomatie russe s'est même fendu d'une pique à l'égard du président ukrainien. Il reproche en effet à Volodymyr Zelensky de s'entêter, de poser des conditions et de réclamer coûte que coûte une rencontre immédiate avec Vladimir Poutine. Or, pour les Russes, une rencontre entre les deux présidents n'a de sens que s'ils parviennent à trancher des questions importantes pour avancer concrètement vers une paix durable. Pour l'heure, les négociations semblent buter sur les garantie de sécurité pour l'Ukraine. Moscou invoque le respect d'un principe du droit international qui dit qu'il n'est pas possible de garantir la sécurité d'un État, l'Ukraine, au détriment de la sécurité d'un autre État, la Russie. À en croire le chef de la diplomatie russe, Moscou n'est pas prêt à infléchir sa position même face à de nouvelles sanctions européennes. Sergueï Lavrov les a même qualifiés de tentatives de violation du processus lancé par les présidents Trump et Poutine.
Jean-Didier Revoin, correspondant de France Culture à Moscou. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance affirme que Moscou a fait d'importantes concessions sur l'Ukraine auprès du président Donald Trump depuis son sommet le 15 août en Alaska. Des déclarations faites ce dimanche à la chaîne américaine NBC. L'administration Trump qui intensifie aussi son offensive contre l'immigration aux États-Unis après Los Angeles et Washington. Le Pentagone envisagerait de déployer dès le mois prochain des troupes de la Garde nationale à Chicago, la troisième plus grande ville du pays. Une manière de lutter contre la criminalité soutient Donald Trump dans des villes dirigées par les démocrates. À New York, Loïc Loury.
Vendredi dernier, Donald Trump annonçait la couleur. Nous allons rendre nos villes très sûres, assurait le président américain, avec New York et surtout Chicago en ligne de mire. Selon le Washington Post, le Pentagone plancherait en effet depuis des semaines sur plusieurs plans d'action, l'un d'eux prévoyant le déploiement dans la plus grande ville du Midwest de milliers de soldats de la garde nationale. Depuis des années, le milliardaire décrit les grandes métropoles démocrates et en particulier Chicago comme des coupes-gorges à feu et à sang. Il passe désormais à l'action contre la vie des autorités locales. Donald Trump accroît ainsi ses moyens de répression contre l'immigration et il crée du chaos pour en tirer plus de pouvoir, dénonce la gouverneure adjointe de l'Illinois. À Washington, les près de 2000 réservistes de la garde nationale mobilisés récemment seront bientôt autorisés à porter des armes à feu.
Toujours aux États-Unis, à plus de 2000 km de l'Illinois, au Texas, la méga fusée d'Elon Musk, Starship, s'apprête à effectuer son 10e vol d'essai. Le lancement est prévu cette nuit, aux alentours d'1h30 du matin, heure française. L'entreprise du milliardaire américain SpaceX poursuit ses objectifs, aller un jour sur la Lune et Mars. Boris Allier, SpaceX multiplie les essais entre échecs et réussites.
13 octobre 2024, SpaceX réalise un exploit. L'énorme réservoir de sa fusée surpuissante, l'équivalent d'un immeuble de 40 étages, retombe du ciel et est rattrapé par des bras mécaniques sur le pas de tir. Il vient de propulser dans l'espace le vaisseau Starship qui parvient lui aussi, une heure après, à amerrir de façon contrôlée dans l'océan Indien. Ce cinquième essai réussit, mais depuis, SpaceX a connu une série de déboires. Les derniers tests se sont terminés avec des explosions ou des retours sur Terre incontrôlés. Pour ce 10e vol, pas de retour sur le pas de tir. Les deux éléments de Starship finiront leur course en mer. L'objectif est de corriger les erreurs, d'éprouver les systèmes et les confronter à différents scénarios de vol. Et c'est bien la stratégie d'Elon Musk, multiplier les lancements malgré les échecs. Pour cela, le milliardaire américain peut compter sur son ancien allié, Donald Trump, qui a récemment allégé les réglementations qui encadrent le secteur spatial.
La vague de chaleur qui a frappé l'Espagne ces derniers jours a été la plus intense jamais enregistrée dans le pays depuis qu'il existe des relevés selon l'Agence météorologique nationale. Les incendies dans le nord du pays ont fait 4 morts et détruit des centaines de milliers d'hectares de végétation. Au Royaume-Uni, le gouvernement promet d'accélérer le traitement des procédures d'appel des demandeurs d'asile. Annonce du ministre de l'Intérieur alors que des manifestations s'en sont tenues tout le week-end en Angleterre, organisées par des groupes anti-immigration qui s'insurge contre l'accueil des migrants dans des hôtels aux frais du contribuable. À Londres, les explications de notre correspondante Emeline Vin.
La ministre de l'Intérieur va mettre sur pied un nouveau système d'examen des recours de la part de demandeurs d'asile déboutés. Ce seront désormais des arbitres indépendants qui trancheront plutôt que des juges, une manière de contourner les tribunaux et surtout d'accélérer l'examen des appels. Même si les autorités sont parvenues ces derniers mois à faire diminuer les délais de traitement, un recours prend en moyenne un an à être examiné aujourd'hui. Conséquence, le nombre de demandeurs d'asile augmente, tout comme la part d'entre eux hébergés dans des établissements privés. Le gouvernement a pourtant promis de mettre fin à la pratique qui coûte 6 millions d'euros par jour aux contribuables d'ici 4 ans. Cette réforme était en projet depuis plusieurs mois, mais les manifestations des dernières semaines devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile et surtout l'évacuation de l'un d'entre eux ordonnée par la justice ont accéléré l'annonce. Les ONG de défense des droits des migrants soutiennent la volonté de réduire les délais de traitement, mais soulignent l'importance d'un mécanisme judiciaire robuste et surtout la nécessité d'examiner plus sérieusement les demandes en première instance. La moitié des refus initiaux sont renversés en appel.
Emeline Vin, correspondante à Londres de RFI pour France Culture. C'est une rentrée politique à haut risque qui attend François Bayrou. Le chef du gouvernement, menacé par des appels à bloquer tout le pays le 10 septembre prochain, qui ont reçu cette semaine le soutien de plusieurs formations politiques. Le Rassemblement national et la gauche agitent aussi le spectre d'une censure à l'automne lors de l'examen du prochain budget. Le Premier ministre tiendra demain une conférence de presse à 16h pour tenter de défendre ses pistes d'économie budgétaire. Autre dossier chaud qui attend le gouvernement, la loi Duplomb. Le groupe parlementaire La France Insoumise annonce qu'il déposera en novembre une proposition de loi pour abroger le texte dans le cadre de sa niche parlementaire. Promulgué par Emmanuel Macron le 12 août dernier, ce texte a été en partie censuré par le Conseil constitutionnel et ne prévoit plus la réintroduction de l'acétamipride, mais la gauche dénonce d'autres dispositions du texte. Après la vague d'enlèvements dans le monde de la crypto-monnaie, un décret pour autoriser les dirigeants d'entreprises à masquer leur adresse personnelle est paru aujourd'hui au journal officiel sur son réseau social X. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est félicité de cette réponse. La mesure entrera en vigueur demain. Dernière soirée du festival Rock en Seine à Saint-Cloud, près de Paris. Le festival qui se termine avec un concert scruté de très près. Le groupe nord-irlandais NICAP doit se produire ce soir, malgré les demandes de déprogrammation du Conseil représentatif des institutions juives de France. L'un des membres du groupe est poursuivi au Royaume-Uni pour infraction terroriste après s'être couvert d'un drapeau du Hezbollah libanais lors d'un concert à Londres en 2024. Dans ce contexte, la mairie de Saint-Cloud et la région Île-de-France ont décidé de suspendre leur subvention au festival. Savannah Brunon.
Le retrait des subventions à Rock en Seine s'élève à 500 000 euros au total. Le plus gros de ce montant devait être versé par la région Île-de-France. Mais il y a deux jours, elle a annoncé suspendre ses subventions au motif du refus du festival de déprogrammer NICAP. Jérémy Redler est conseiller régional, membre de la majorité de Valérie Pécresse.
On ne peut pas accepter aujourd'hui en France, que l'on piétine des victimes, notamment des victimes françaises du 7 octobre, du Hezbollah. C'est un groupe qui soutient des organisations terroristes. Il l'assume. Et donc nous, à la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, on assume aussi très clairement de ne pas subventionner un festival qui laisse une scène à un groupe comme celui-ci.
Les organisateurs du festival déplorent évidemment cette décision des partenaires historiques de Rock en Seine, mais sur un budget annuel de 16 à 17 millions d'euros, une perte de 500 000 euros n'est pas de nature à mettre en danger la survie du festival. C'est ce qu'explique le directeur de Rock en Seine, Mathieu Ducot, au micro de France Info TV.
Elle représente une part minime du budget, donc je ne vais pas faire croire que ça met en péril le festival. En revanche, elle permet de ces subventions de mener un certain nombre d'actions vis-à-vis des franciliens, des clodo-aldiens, des gens éloignés de la culture, des jeunes talents que nous aidons. Et c'est en ce sens extrêmement dommage que ces subventions ne nous permettent pas de financer ces actions qu'on a néanmoins continué en intégralité pour l'édition en cours.
Mathieu Ducot assure que le groupe a promis qu'il se tiendrait correctement lors de son concert ce soir. Niqab s'est d'ailleurs produit 100 heures aux Eurockéennes de Belfort le mois dernier.
Un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse confirmé dans l'Ain. Il s'agit du premier cas de la maladie dans le département depuis la détection du premier foyer dans le département limitrophe de Savoie. C'était le 29 juin dernier. Des mesures ont été annoncées par la préfète de l'Ain pour éviter la propagation de la maladie. Parmi elles, l'abattage des bêtes contaminées ainsi qu'un accompagnement humain et psychologique pour les éleveurs touchés. La météo, demain matin, le ciel sera couvert sur la moitié sud avec quelques ondées localement. Temps bien plus lumineux au nord. Côté température, il fera 19 degrés à Arras, 22 à Rennes, 23 à Perpignan, 27 en Corse. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec Martin Descloseaux à la technique. C'était Olivier Arnay.